Eh bien, je bénis le Seigneur de pouvoir vous apporter la parole ce matin et de le faire avec action de grâce, en bénissant le Seigneur de ce qu'il accomplit au milieu de nous, en bénissant le Seigneur avec Jérémie et Elodie d'avoir regardé la petite Anaé pendant cette semaine. Puisque la semaine dernière, c'était notre frère Jérémie qui a porté la parole. Et puis du lundi, la petite était à l'hôpital avec une bronchiolite. Et le Seigneur a veillé sur elle et elle a été restaurée. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et puis pour tout ce qu'il accomplit au milieu de nous. Il poursuit son œuvre. Il est là à parcourir, on peut dire, de tout le territoire de l'Église, parce que l'Église est le territoire du Seigneur, n'est-ce pas? C'est là qu'il est à l'œuvre, qu'il travaille, et avec ce territoire-là, eh bien, il déborde sur le peuple autour de nous, sur ceux qui ne le connaissent pas encore. Et pour aller plus loin dans cette pensée, je voudrais prendre avec vous l'évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guéri. Un épisode très particulier, un moment très particulier, parce que le ministère de Jésus, effectivement, s'est limité à Israël. Israël, si vous regardez sur la carte, c'est un petit pays. C'est un tout petit territoire, Israël. Le Fils de Dieu qui a accepté de venir dans un corps limité au nôtre a aussi accepté d'exercer son ministère dans un territoire très limité pour une nation en particulier. Il a porté le règne de Dieu dans la société israélienne. Il disait, chapitre 10 par exemple, versets 5 à 7, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Jésus est venu apporter le royaume des cieux et ici, quand il envoie ses disciples en mission, il leur donne le même rôle, aller prêcher le royaume des cieux et il leur donne aussi les signes à accomplir, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, il les engage à faire ce que lui faisait, mais dans le territoire d'Israël. non pas vers les païens ni même les Samaritains. Donc la loi, la grâce, l'obéissance, la foi, tout cela, cela se vivait à l'intérieur d'Israël. Un peuple mis à part pour Dieu dès l'origine. Le problème de Dieu, en quelque sorte, avec l'humanité tout entière, s'est réglé au sein de ce peuple spécifique, choisi par le Seigneur dans ce but. Dans les maisons, dans le temple, sur les places publiques, Jésus était partout à manifester le royaume de Dieu et faire connaître l'obéissance qui l'accompagne. Car Jésus agissait, guérissait, bénissait, mais Jésus enseignait, il avait prêché, enseignait le peuple. Il y a les deux aspects dans le ministère de Christ. La bénédiction qu'il apporte et la parole de Dieu qu'il apporte, l'enseignement. Une nation tout entière était occupé au règne de Dieu. Le peuple, comme les élites, et cela sans aucune révolte, du moins du côté des disciples de Jésus et de ses disciples, sans aucune révolte contre le pouvoir politique qui était en place, pouvoir tyrannique, pouvoir d'un autre, d'un étranger, puisqu'il s'agissait en l'occurrence de l'Empire romain qui dominait sur toute la région et auquel était assujettie la nation d'Israël. Eh bien, le Fils de l'homme prêchait, guérissait, délivrait, et cela suffisait. Le royaume de Dieu révélé par la nation d'Israël au sein des nations corrompues, était là. La présence de Dieu au milieu de la nation aurait suffi à, en quelque sorte, annuler tous les effets délétères de la puissance politique étrangère qui dominait sur Israël. Jésus ne s'occupait pas de cette puissance politique. Il installait le royaume de Dieu dans la vie des personnes. Et cela suffisait. Jésus était tout occupé à cette tâche-là. La démonstration du royaume devait être faite dans ce cadre strictement limité. Alors, le projet du Fils de l'homme n'a pas été reçu. Pourquoi ? Ben, je crois à cause des accointances que justement les chefs des nations, de la nation avaient avec le pouvoir politique étranger. Les intérêts humains ont prévalu jusqu'à cette terrible affirmation « Nous n'avons de roi que César ». Alors qu'ils avaient leur roi avec eux à établir le royaume de Dieu, ils ont choisi d'avoir comme roi César, le roi du monde, le roi des puissances politiques de ce monde. Mais sinon, s'ils avaient choisi leur roi, ben ils étaient inquiets justement à ce sujet-là, puisque à un moment donné, il est dit il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple, parce que sinon, si on le laisse faire, quoi, les Romains vont venir et vont détruire la ville. Parce que l'évidence du royaume était telle que les Romains étaient supposés ne pas accepter cette manifestation au sein de la nation. C'était une imagination des chefs religieux. Mais qui sait ce que cela aurait produit si vraiment le peuple d'Israël avait pleinement accueilli son roi? Et voilà que quelqu'un ici arrive qui est hors du cadre et qui interfère dans le ministère de Jésus. Cette femme cananéenne, étrangère, qui a un énorme fardeau sur elle, c'est qu'elle est tourmentée, mais on peut dire bouleversée d'amour pour sa fille, qui est tourmentée par le démon. Et elle, cette femme, elle se permet de franchir la ligne, de franchir la frontière et de venir réclamer auprès du fils de David les bénédictions qu'il est venu apporter, les bénédictions du royaume qu'il est venu apporter au peuple d'Israël. Elle veut bénéficier de la puissance salutaire. Elle déclare d'une certaine façon, par son appel, que les autres peuples aussi attendent celui qu'elle appelle le fils de David, auquel elle ajoute Seigneur, Seigneur fils de David, titre éminemment prophétique, qui annonce justement le roi qui va avoir autorité sur tous les peuples. Les peuples gémissent sous la domination du diable et de dirigeants impotents. Les dirigeants du monde sont impotents, sans force, sans capacité face aux vrais problèmes de l'être humain. Les échos de l'intervention divine sont parvenus aux oreilles de cette femme et finalement, très vite, même de ce temps-là, aux oreilles des peuples et des nations environnantes. Et c'est pourquoi cette femme vient vers Jésus. Elle vient réclamer sa part de la bénédiction. Je voudrais vous lire dans Ésaïe chapitre 51, versets 4 à 5, parce que les peuples attendent, espèrent. Et il est dit, mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Déjà était annoncé ce message aux nations qui attendent le salut et l'espérance que les gens de toute la terre, puisque les îles espéreront en moi. Alors la cananéenne anticipe en quelque sorte. Elle ne force pas la porte, mais presque. Remarquons la précision du texte. Au début, les disciples disent à Jésus « Renvoie-la », alors qu'elle vient de l'appeler « Fils de David, Seigneur, aie pitié de moi ». « Renvoie-la, car elle crie derrière nous ». Elle suivait, elle criait, elle espérait, elle attendait, elle interpellait. Elle crie derrière nous. Il répondit « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Mais elle vint se prosterner devant lui. Disant, Seigneur, secours-moi. Elle vint se prosterner devant lui. Elle se met sur la trajectoire de Jésus. Comment est-ce que Jésus peut esquiver? Il ne peut pas esquiver. Et d'ailleurs, ce n'est pas son intention. Elle va jusqu'au bout de sa démarche. Elle va devant le Seigneur. Et la voilà exaucée. Et pourquoi est-ce qu'elle est exaucée? Tout simplement parce que Jésus trouve en elle ce qu'il était venu déclencher en Israël, c'est-à-dire la foi. C'est pourquoi Jésus était venu, pour déclencher la foi. Il le faisait envers son peuple et il trouve cette foi dans cette femme étrangère. Il ne peut pas la laisser en dehors de la bénédiction, puisqu'elle manifeste ce que lui est venu apporter. C'est la seule chose que Dieu veut constater lorsqu'il témoigne de sa fidélité au monde. La foi. Le Seigneur est fidèle, et si le Seigneur est fidèle, qu'il trouve en nous la foi. Et les deux marchent ensemble. C'est la même racine d'ailleurs, fidélité et foi. Du côté de Dieu, c'est la fidélité. Du côté de l'homme, c'est la foi. Si les deux sont réunis, alors tout est réglé. Jésus expose la fidélité de Dieu envers ceux qui sont assaillis par les ténèbres, aux Juifs premièrement, qui était instruit par la loi, qui était porté par toute l'histoire des miracles de Dieu en leur faveur, mais qui ne voyait toujours pas clair. Et il leur dit en quelque sorte, croyez, je suis là pour vous instruire et vous bénir. Mais justement, le schéma du chapitre 15 de Matthieu témoigne que le peuple et ses dirigeants ne recevaient pas. Puisque au début du chapitre, il est avec les pharisiens à discuter au sujet de leur tradition qui met obstacle à l'accueil de la parole de Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors il a cette explication avec les pharisiens. Et ça se passe mal. Alors, dans un deuxième temps, il s'adresse à ses disciples et il a une explication avec ses disciples. Et c'est là, à ce moment, verset 21, que Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. En allant dans cette région, Jésus arrive aux confins du territoire d'Israël, là où les frontières sont floues, là où se confond le péché d'Israël et le péché des peuples, là où se confond l'ignorance d'Israël et l'ignorance des peuples. Parce que Tyr et Sidon sont mentionnés comme ça, vous lisez dans l'Écriture, voilà, le territoire de Tyr et de Sidon. Mais qu'est-ce que c'est que ce territoire de Tyr et de Sidon? Si on remonte dans l'Ancien Testament, on trouve que Sidon, c'est le territoire d'un roi qui avait une fille qui s'appelait Jézabel, qui adorait les Baals et les Astartés. Jézabel qui était mariée au roi Achab, qui l'a entraînée dans la corruption. Voilà ce qu'était Sidon dans l'histoire. Un peuple et une région où la confusion régnait sur le plan spirituel, sur le plan moral. Et Tyr. Tyr, vous lisez Ézéchiel au chapitre donc 20, attendez, je retrouve exactement 26 à 28. Alors vous savez ce qu'était Tyr, qui est appelé au 26.2 d'Ézéchiel la porte des peuples, qui était le lieu du commerce, le lieu des échanges économiques avec les autres nations, qui était une ville florissante à cause de son commerce. C'est vers ces deux villes, pas exactement dans les villes, mais dans le territoire de ces villes que Jésus se rend. C'est toujours le territoire d'Israël, mais c'est déjà le territoire des païens. C'est déjà le lieu où tout l'imaginaire de l'homme s'investit, où toutes les espérances humaines se placent dans la puissance économique, dans la vie morale conduite par les propres désirs de l'homme, dans les spiritualités, etc., étrangères. Mais Christ a l'initiative. Et partout où il va, c'est pour susciter l'espoir et trouver les perdus. Et alors Jésus ne peut pas refuser à celle, en quelque sorte, qu'il est presque allé chercher chez elle ce qu'il est venu donner au monde. Il agit en vue de la foi et il trouve la foi, alors il exauce. Il exauce à distance, comme au sujet du centenier, au chapitre 8, verset 13. Il a trouvé aussi la foi dans ce centenier romain. Et pour les deux cas, il exauce à distance. Il dit « Va, ta fille est délivrée, va, ton serviteur vit. » Sa présence chez les païens, c'est une prochaine étape. Donc à ce moment-là, il se contente de la foi et de bénir à distance. De tout temps, des étrangers avaient trouvé refuge sur les ailes du Dieu d'Israël. Rahab, cananéenne, elle aussi. Ruth, la Moabite, et tant d'autres. Elles avaient cru et s'étaient trouvées intégrées dans le peuple saint. Et Jésus est descendant de Rahab et de Ruth. C'est pour dire l'intégration qui avait eu lieu. Ici, la cananéenne repart chez elle avec son trésor, la délivrance de sa fille. Elle n'a pas besoin de se faire juive, car très bientôt, le Seigneur va étendre à tous les peuples le message de la foi. Et comme Paul dira, pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens. C'était son ministère. Afin que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, qui avait été donné, parole initiale qui lui avait été donnée pour le lancer dans ce ministère auprès des païens. Jésus va être présenté comme crucifié pour le péché du monde. Il va être prêché à toutes les nations en vue de l'obéissance de la foi. La cananéenne a certainement fait partie d'une de ces premières communautés chrétiennes qui se sont constituées par cercles grandissants jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Savez-vous bien que la prédication de la foi demeure, que c'est toujours cela que le Seigneur attend de nous? Savez-vous bien que Jésus ressuscité, vivant pour toujours, se présente toujours à vos cœurs? Savez-vous bien qu'il demeure la seule voie du salut? Les spiritualités diverses et variées ne sont pas votre salut. Les traditions du monde ne sont pas votre salut. La religion formelle n'est pas votre salut. La méditation et le travail sur l'estime de soi n'est pas votre salut. La science n'est pas votre salut. La technologie n'est pas votre salut. Jésus-Christ est votre salut et votre délivrance. Du commencement à la fin, dans votre corps et dans votre esprit, votre salut personnel, relationnel, social, c'est Jésus-Christ, et même finalement politique. N'abandonnez surtout pas cette voie, et en particulier la nouvelle génération. Au contraire, exaltez-la, faites savoir à tous que Jésus-Christ est votre salut, que vous espérez en lui, dans la vie comme dans la mort. Sinon, vous tomberez dans ces terribles ténèbres qui commencent à se manifester à nouveau dans la société moderne. Le siècle des Lumières, 18e siècle, je pense, hein, c'est pas le 10e, non, c'est 18e siècle, le siècle des Lumières, se transforme en siècle des ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. J'ai préparé de le dire, donc je vais le dire. Mais quand même, une nation voisine qui euthanasie une jeune fille de 23 ans parce qu'elle a gardé un traumatisme des attentats de Bruxelles il y a quelques années en arrière et qu'elle ne supportait plus la vie à cause de cela. Elle a été euthanasiée. Personne dans cet entourage, dans cette nation, n'a été capable de lui présenter le fils de David qui vient sauver et délivrer de tous les tourments et de tous les désespoirs. C'est là où nous en sommes. Et c'est là que notre nation se met à imaginer remplacer en quelque sorte des centres de soins par des lieux d'exécution. C'est ça qui est devant nous. Alors je le dis brutalement parce que on peut mettre toutes les nuances et je suis habitué à essayer de ne pas trop choquer dans certaines réflexions ou pensées, mais c'est quand même la réalité brute qui est devant nous. Vous allez avoir, si les choses vont dans le sens qu'elles vont, des lieux d'exécution comme ça vient de se passer en Belgique. Et où un ministre français va visiter et dire « C'est très bien, c'est très carré, il n'y a pas de problème à cela. » Voilà ce qui se présente. Et je prends cet exemple d'actualité, car la foi ou l'incrédulité ont grandement à voir avec la vie concrète de son début à sa fin. Avec pour la foi des relations qui perdurent jusqu'aux confins de la souffrance. Aucune souffrance ne peut trouver un croyant avec son entourage qui le laisse seul, dans sa solitude. La foi accompagne et solidaire de toute souffrance, de toute faiblesse, et elle va jusqu'au bout, de sorte que même quelqu'un qui souffre absolument peut trouver un encouragement par la foi de ceux qui l'entourent. L'espérance dont notre frère a fait état demeure au sein de la morosité et l'amour tranche avec le repliement sur soi. Pour ceux qui sont dans la foi, l'espérance, l'amour, il y a toujours une grâce, une intervention de Dieu, un soutien. Et nous allons, en progressant, jusqu'à arriver dans le royaume de Dieu. Ce qui fait que nous passons les étapes de la faiblesse, les étapes de la souffrance, sans à un moment donné dire « bon, c'est fini maintenant, je n'ai plus rien à espérer, je n'ai plus rien ». Non, ça c'est ceux qui ont l'espérance terrestre qui disent ça. J'ai bien rempli ma vie, j'ai fait tout ce que je voulais, maintenant j'arrive au bout, ça va commencer à devenir un peu trop difficile, je termine de moi-même. Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Leur compréhension se limite à la vie présente. Tant qu'ils pouvaient en profiter, être quelqu'un, quelque chose, être apparent dans cette société, c'était bien. Une fois que les choses se gâtent, on s'en va. Ce n'est pas la vision chrétienne. La vision chrétienne, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés à la vie éternelle. Donc nous commençons la vie éternelle et nous allons pas à pas vers la vie éternelle. À un moment donné, ça devient difficile, ça devient des souffrances, ça devient compliqué. Mais c'est toujours la marche vers la vie éternelle. Et puis il y aura un passage et puis nous nous retrouverons dans l'éternité. Auprès et avec le Seigneur. Donc il n'y a aucune désespérance à avoir. Aucun moment où on dit, ben non, maintenant ça y est, c'est fini. Non. Nous allons vers Dieu, avec Dieu qui est venu vers nous. Donc nous allons porter le témoignage du Seigneur, nous allons le faire perdurer et même s'amplifier et produire un fruit nouveau au sein de notre société qui s'endurcit. Peut-être en reconnaissant déjà que les croyants partagent souvent les mêmes situations limites que les profanes. Soit qu'ils n'aient pas été instruits, soit qu'ils se soient relâchés et ils se retrouvent eux-mêmes aux confins du territoire, à ne plus trop savoir s'ils sont en territoire chrétien ou en territoire païen. Une confusion qui s'installe, des points de jonction qui se sont faits entre eux et le monde profane, confusion dans leur relation à Dieu, Et tout ça, ça les expose à reprendre la marche selon l'esprit du monde. Mais le Seigneur vient, se présente à nouveau. Et si vous êtes dans cette situation, eh bien, acceptez que le Seigneur vous rejoigne, puisque de toute façon, vous êtes dans son territoire. Donc, même si vous arrivez aux limites du territoire, le Seigneur est toujours là pour venir vous donner sa présence vivifiante. Vous avez besoin de son autorité dans vos vies. Laissez Jésus toujours venir vous visiter. Il a autorité dans toute son Église. Partout où l'Évangile est connu et où quelqu'un se réclame de lui, le Seigneur peut apporter le salut et la délivrance. Nous nous mettons parfois et souvent nous-mêmes dans ces situations limites, mais le Seigneur est toujours notre recours. Et là, soudain, dans la communion retrouvée avec le Seigneur, puisque vous vous êtes approché du monde profane, ben vous allez vous trouver aux côtés de gens qui ne sont pas très différents de vous, qui sont seulement de l'autre côté de la frontière, parce qu'ils n'ont pas encore été sanctifiés par la justice de Dieu, mais ils sont tellement désireux de franchir la frontière vu le malheur qui les accable dans ce monde. Et si vous, vous êtes là, avec Jésus, maintenant, tout près d'eux, alors vous serez aussi le moyen de leur délivrance. Vous pouvez peut-être être de ceux qui sont restés à Jérusalem, la Jérusalem spirituelle, cela s'entend, c'est-à-dire être des chrétiens bien au clair sur la doctrine de la foi et de la vie qui va avec, parce que c'est quand même cela le but, que vous soyez au cœur du territoire, au cœur du témoignage. Alors, croyez-le, votre témoignage sera remarqué et certains viendront à vous. Et s'ils ne viennent pas à vous, c'est vous qui irez à eux pour leur faire connaître Jésus. Certaines personnes ont peut-être près de vous une vie respectable, mais il leur manque la connaissance de Christ qui fait la différence et qui confère la véritable dignité devant Dieu et devant les hommes. Et ils n'attendent peut-être que cela, de connaître cette véritable dignité, alors qu'ils font des efforts dans la vie pour être des gens bien, des gens de bien. Et si vous avez Christ en plus à leur apporter, eh bien, ils pourront se repentir devant Dieu et être sauvés également. Je termine en mentionnant rapidement les trois lieux, en quelque sorte, où installer le règne de Dieu et où, de ce fait-là, révéler au monde sa présence. C'est d'abord votre propre personne qui appartient à Christ. C'est le premier lieu du règne de Dieu, par l'Esprit. Deuxième lieu, votre famille, dont vous êtes responsable devant Dieu, responsable de la constituer selon la structure divine. Et là, j'insisterai jamais, je pense assez, sur l'engagement des pères à fonder une famille qui vive dans la connaissance et l'obéissance de Dieu. C'est leur responsabilité. Donc la famille. Et troisièmement, votre assemblée locale, qui est le lieu d'adoration et d'instruction de la loi de Christ. De ce fait, un lieu de discipline et d'obéissance. L'assemblée s'élargit à la communauté des croyants, avec des interactions, des soutiens, des œuvres communes, accompli toujours au nom de Jésus-Christ. Que nos œuvres ne deviennent pas de simples œuvres humanitaires, mais que toujours elles soient fondées sur le témoignage de Jésus. Toujours, au nom, tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit personnellement ou communautairement, toutes les églises ensemble pour soutenir les œuvres chrétiennes, dans le cadre du témoignage rendu à Jésus, toujours. Et à ces trois niveaux, et donc même quatre, ben vous allez être confrontés aux œuvres du monde, et sachez-le bien, la loi intérieure, la loi spirituelle que vous allez mettre en œuvre, ne plaira pas à la loi du monde. Vous ne pourrez pas éviter la contradiction, l'incompréhension et l'hostilité, pas plus que le Seigneur ne l'a évité, pas plus que les apôtres ne l'ont évité. C'est la condition pour avoir un témoignage authentique. Et que le Seigneur puisse encore venir révéler son règne à ceux qui doivent hériter du salut. Amen.